pourquoi parler de Claude Bernard ? Je vais traiter un tout petit morceau du sujet, un très petit morceau, avec un regard fuyant du côté de la philosophie. J'ai choisi de parler de Claude Bernard parce que lui dit qu'il n'est pas possible de donner une définition de la vie. Hein, pas de définition. Pour Claude Bernard, physiologiste, biologiste, la notion de vie est une notion commune. Ce n'est pas une notion scientifique à proprement parler. On n'a pas besoin de définir la vie pour faire de la biologie. Et ça c'est sa première. Oui, il n'y a pas à définir la vie. On comprend sans difficulté ce que c'est une notion commune à tout le monde. Et d'autre part, c'est une illusion de croire qu'on peut définir la vie alors que dans les sciences de la vie, justement, on cherche ce que c'est. Cela, ces deux citations sont tirées de... J'ai pas l'habitude de ça. C'est de l'ouvrage de Claude Bernard qui s'appelle « Leçons sur les phénomènes de la vie communs aux animaux et aux végétaux ». Ce livre, Claude Bernard était en train d'en relire les épreuves quand il est mort. Et donc c'est son dernier livre, une espèce de testament. Et dans la première leçon de ce livre, il cite c'est des leçons qui ont été faites au Muséum d'Histoire Naturelle. Il cite un grand nombre de définitions données par ses ou d'essais de définitions données par ses prédécesseurs, et il ne s'attarde en fait que sur une seule de ces définitions, qui est celle de Bichat. Bichat, première phrase de son livre sur les recherches physiologiques sur la vie et la mort, Bichat disait: la définition de la vie, c'est la vie est l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Le commentaire de Claude Bernard, c'est de dire d'abord: oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas original, puisque 50 ans avant Bichat, vous trouvez déjà ça dans... dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, que Claude Bernard cite de mémoire. En réalité, dans l'encyclopédie, vous avez « vie, deux points, c'est l'opposé de la mort. » Point, terminé. Hein? Mais... réflexion de Claude Bernard, en effet, il est impossible de séparer ces deux idées. Ce qui est vivant mourra, ce qui est mort a vécu. Autrement dit, tant qu'on est vivant, on n'est pas mort. Et si on est mort, c'est qu'on a été vivant. Mais ce n'est pas une définition. Alors, renonçons à donner une définition ou à chercher une définition, puisque c'est indéfinissable, selon Claude Bernard, et essayons de caractériser les êtres vivants par des propriétés du vivant qui ne sont pas des propriétés des corps bruts, comme il dit. Les êtres vivants sont des êtres organisés, ils se multiplient, ils se nourrissent, ils évoluent. Leur caducité, c'est le fait qu'ils sont fragiles, ils peuvent tomber malades et mourir. Notez que la notion d'évolution ici, chez Claude Bernard, c'est l'évolution personnelle, individuelle du vivant, puisqu'il la commente en disant « l'être vivant apparaît, s'accroît, décline et meurt ». C'est une espèce de trajectoire individuelle. Et pour élaborer un peu sur ces propriété du vivant, Bernard lance une espèce de hypothèse générale. Je considère qu'il y a nécessairement dans l'être vivant deux ordres de phénomènes. Les phénomènes de création vitale ou de synthèse organisatrice et les phénomènes de mort ou de destruction organique. Mais, alors ça ressemble à Bichat, mais le point sur lequel Bichat s'est trompé, c'est que ces phénomènes, selon Claude Bernard, ne s'opposent pas, ils sont étroitement intriqués, ils sont complémentaires, ils sont l'un dans l'autre. L'un signifie l'autre, pour ainsi dire. Si on va un petit peu plus loin dans le texte de Claude Bernard, on se rend compte qu'il dépasse le souci de définir et il a une sorte d'intuition. Chez un être vivant, tout se crée morphologiquement, s'organise et tout meurt, se détruit. Alors, vous avez l'exemple des petits poussins dans son œuf, il prend forme. Il devient poussin alors qu'il était une petite graine de rien du tout. Il devient adulte et à mesure qu'il gambade et qu'il picore et qu'il se dépense, il vieillit, il s'use, il perd ses plumes, sa vue baisse, il tombe malade, il meurt. L'analyse de Claude Bernard est alors que les phénomènes de destruction ou de mort vitale sont ceux qui nous sautent aux yeux, tandis que les phénomènes de synthèse organisatrice sont plus difficiles à discerner, ils restent intérieurs et silencieux. Les phénomènes de destruction sont ce qui fait dire à Claude Bernard, un peu brutalement, la vie c'est la mort. Mais il l'a dit plusieurs fois, il l'a dit dans ses livres, et il cite lui-même, dans le livre que je mentionnais tout à l'heure, il cite en note deux autres références qui sont des cas où il a dit « la vie c'est la mort ». Point. Tandis que, en ce qui concerne les phénomènes de réparation, de reconstruction, font dire la vie c'est la création, la vie c'est la recréation ou l'entretien de la création ou le fait de grandir, de se développer. Et ça aussi, Claude Bernard l'a déjà dit tout seul. Il a lancé plusieurs fois la vie c'est la mort, il a lancé aussi la vie c'est la création. Et là encore, il donne une référence. Dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale, il a dit « s'il fallait définir la vie d'un seul mot, il a dit qu'on ne peut pas définir. Je dirais, la vie, c'est la création. » Encore un peu plus loin, à propos de la nutrition, on trouve cette remarque « Nous nous représentons pour nous représenter l'être vivant. » Là aussi, une intuition. Un courant de matière qui traverse incessamment l'organisme et le renouvelle dans sa substance en le maintenant dans sa forme. Alors là, vous avez un passage que Gromek a souligné comme un glissement de la dualité entre la vie et la mort à la dualité entre la forme et la matière. Vous mangez, vous restaurez ce dont vous êtes fait, vous éliminez, la matière passe à travers vous et vous restez le même. Mirko Gromek, décidément, Gromek cite encore de Claude Bernard, allant dans le même sens. Claude Bernard aurait dit au muséum, lors d'un cours, la morphologie, c'est-à-dire l'étude de la forme, c'est pas de la chimie, c'est de la métaphysique. Et le commentaire de Gromek est un peu désolé. Par son usage des termes, l'idée directrice le pouvoir législatif. Bernard a eu un pressentiment vague, très vague, de la notion d'information, mais évidemment, la notion, bon, il n'avait pas inventé le chromosome et la biologie moléculaire. Hein. Et ce qui fait que il a eu une notion ou une intuition trop étroite de ce qu'est la vie. Et quand Bernard dit que au-dessus, il y a l'idée, et ce qu'on étudie dans la science, c'est pas ce qu'il y a au-dessus qui est de la métaphysique, mais c'est ce qui est de matériel dans le vivant, hein. C'est la limitation de Claude Bernard. En fait, si on cherche une auréa une philosophique à Claude Bernard, on peut dire que sa philosophie est très proche de sa philosophie d'arrière-plan, inconsciente, il ne connaissait pas Schopenhauer. Mais c'est la philosophie de Schopenhauer qui date de 50 ans avant ce que Claude Bernard écrit. Hein. Vous lisez dans Schopenhauer, « Qu'est-ce en fin de compte que la vie ? Un flux perpétuel de la matière à travers une forme qui demeure invariable. De même, l'individu passe et l'espèce ne passe pas. Or, entre l'alimentation ordinaire et la génération d'une part, et les pertes ordinaires de substances et la mort d'autre part, la vie et la mort, hein, il n'y a qu'une différence de degré entre ce qu'il y a entre ces deux choses. J'aime surtout la dernière de ces citations. À la volonté de vivre est attachée la vie, et la forme de la vie, c'est le présent sans fin. Cependant, les individus vivants, manifestation de l'idée, dans la région du temps apparaissent, disparaissent, pareil à des rêves instables. Schopenhauer dit encore « Naissance et mort, deux accidents qui au même titre appartiennent à la vie, elles se font équilibre, elles sont mutuellement la condition l'une de l'autre, elles sont intrinsèquement liées. Hein. Ou si l'on préfère cette image, elles sont les pôles de ce phénomène, la vie, pris comme ensemble. Hein. » L'intuition de Schopenhauer, c'est que la vie et la mort sont des phénomènes superficiels de quelque chose de plus profond, qui est la volonté permanente à travers tout ce qui existe, la volonté de continuer d'exister. Ce qui existe s'efforce de continuer d'exister, hein. Et nous l'observons, nous, avec nos antennes particulières, dans la relation entre la vie et la mort. Une idée un peu différente, Auguste Weismann est un biologiste et médecin qui vient après Claude Bernard, et dont l'idée est que c'est l'individu qui meurt, mais la vie ne meurt pas. On retrouve là une sorte d'écho de la philosophie de Schopenhauer, hein. Mais ce que Weismann mettra autant qu'il peut dans son article « La vie et la mort » en évidence, c'est que la mort n'est pas un attribut essentiel de la substance vivante, parce qu'il y a des vivants qui ne meurent pas. C'était sa grande idée. Il y a des vivants qui ne meurent pas. Les vivants unicellulaires se divisent pour se reproduire, et se diviser n'est pas mourir. Tandis que les êtres vivants complexes, ils doivent repasser par l'état monocellulaire, hein, c'est-à-dire qu'ils transmettent la vie par une cellule, hein, mais le reste, le système qui produit cette cellule, meurt. Hein. C'est une écorce qui tombe. Hein. Pourquoi meurt-il cet ectoderme ? Parce que son temps est fini. La constitution physique de ce soma est réglée de telle sorte qu'il ne possède la faculté de vivre que jusqu'à l'expulsion des cellules germinatives. Hein ? Une fois que vous avez transmis la vie, vous n'avez plus qu'à mourir. C'est ça l'intuition. Hein ? Mais vous transmettez la vie. Hein ? La vie, elle, ne s'arrête pas. Ces idées sont repensées par Bergson, qui était un grand admirateur de Claude Bernard, qu'il n'a pas connu. Le philosophe Henri Bergson a prononcé en 1913, pour l'anniversaire de la naissance de Claude Bernard, un discours très admiratif de Claude Bernard, où il nous dit ceci. Si Claude Bernard ne nous a pas donné et n'a pas voulu nous donner une métaphysique de la vie, Claude Bernard tourne toujours autour. Ça, c'est de la métaphysique, je m'en occupe pas, c'est pas à moi de le faire. Bon, je ne suis pas un philosophe. Bon. Il s'est gardé de philosopher, si on peut dire. Mais, ajoute Bergson, il y a dans l'ensemble de son œuvre une certaine philosophie générale dont l'influence sera probablement plus durable et plus profonde que n'eût pu l'être celle d'aucune théorie particulière. Quelle philosophie ? Et voilà la réponse. Nous dirons « La nature est ce qu'elle est » et comme notre intelligence... Ça, c'est du Bergson, hein. Et comme notre mais du Bergson qui fait du Claude Bernard. Hein. La nature est ce qu'elle est, et comme notre intelligence qui fait partie de la nature est moins vaste qu'elle, il est douteux qu'aucune de nos idées actuelles soit assez large pour l'embrasser. Travaillons donc à dilater notre pensée, forçons notre entendement, brisons s'il le faut nos cadres, mais ne prétendons pas rétrécir la réalité à la mesure de nos idées, alors que c'est à nos idées de se modeler agrandies sur la réalité. Voilà ce que nous dirons, voilà ce que nous tâcherons de faire, mais en avançant de plus en plus loin dans la voie où nous commençons à marcher, nous devrons toujours nous rappeler que Claude Bernard a contribué à l'ouvrir. Allons-y avec Bergson. Élargissons nos pensées. Bergson est conscient de suivre. Bergson a écrit un livre qui s'appelle « L'évolution créatrice hein ». Claude Bernard dit « La vie, c'est la création ». Donc, Bergson voit surtout ce côté-là, plutôt que le côté mort. Bergson, quand l'expérience finit par nous montrer comment la vie s'y prend pour obtenir un certain résultat, nous trouvons que sa manière d'opérer est précisément celle à laquelle nous n'aurions jamais pensé. Faites de la recherche en biologie, vous croyez que vous allez trouver quelque chose, vous trouvez le contraire ou autre chose, et cela vous permet d'élargir votre esprit. Bergson s'attache alors, dans ce livre, L'évolution créatrice, à expliciter le fait que de nouveaux possibles s'ouvrent toujours, auxquels nous n'avions pas pensé. Et cela est vrai pour lui. En ce qui concerne l'être individuel, le vivant individuel, la durée et le progrès continu du passé qui ronge l'avenir et qui gonfle en avançant, ça c'est tout notre cheminement d'être vivant. Nous sommes dans la durée, nous avons l'avantage d'assurer la continuité de cette durée par la mémoire. Sinon vous seriez toujours dans le présent et ce serait une succession de présents. Mais nous avons la mémoire, donc c'est une durée unie. Mais ça n'est pas vrai seulement de l'être individuel, c'est vrai de la vie en général. La vie apparaît comme un courant qui va d'un germe à un germe par l'intermédiaire d'un organisme développé. La vie est un progrès continu, hein, avec changement perpétuel. Hein. Et c'est vrai, ajoute Bergson, c'est vrai de l'univers entier, et vous trouvez l'univers dur. Plus nous approfondirons la nature du temps, plus nous comprendrons que durée signifie invention, création de forme, élaboration continue de l'absolument nouveau. Et vous avez là des caractères du vivant, la vie c'est la création, qui sont attribués à l'univers. Vous voyez comment la pensée a pu changer. Alors, Bergson nous décrit aussi. Terminé ? Bon, ben j'arrête. Vous finirez vous-même. Je pense que tout ça, ça c'est ma dernière planche. L'arrière-plan de notre réflexion, il était celui de Cournot, l'arrière-plan scientifique. Hein, c'était celui de Cournot, et maintenant c'est celui de Jean-Marie Laine. Et nous en sommes à donner les caractéristiques de la vie à l'univers. Je vous remercie.
Donc Stéphane Tirard, donc qui va nous faire la deuxième présentation sur les concepts et contextes des définitions du vivant.
Bien. Bonjour, je vais donc vous inviter à un regard historique sur cette question de la définition du vivant, et je voudrais en fait voir comment cette question aussi fondamentale, comme ça a été souligné dans les introductions, qu'est-ce que la vie, a pu susciter des réflexions chez un certain nombre d'auteurs que je vais vous présenter au pas de charge, évidemment très très rapidement, en quelques minutes. J'en ai relevé quelques-uns parmi des centaines possibles. Buffon, Lamarck, Darwin, Bernard, que j'évoquerai très rapidement, et Monod. Mon objectif est de voir comment, au sein de leur réflexion sur le vivant, ces auteurs ont pu tenter de formaliser une définition ou de cerner une réflexion sur la nature du vivant et comment cette réflexion leur était utile, comment elle devait être opératoire par rapport à leur système. Alors, le premier que j'évoquerai, c'est un auteur du XVIIIe siècle, vous connaissez tous son nom naturellement, grand naturaliste français, Buffon, qui nous a laissé son Histoire naturelle, une œuvre monumentale, parmi d'autres œuvres tout aussi monumentales, d'ailleurs, son Histoire des minéraux, etc. Dans le second tome de son Histoire naturelle, qui date de 1748, il pose un certain nombre de concepts qui lui sont utiles dans toute sa réflexion sur le vivant. Et il entre en matière dans ce second tome par une interrogation sur les différences entre les minéraux, les végétaux et les animaux. Je ne détaillerai pas ces quelques pages, mais finalement il les conclut en disant « Enfin, le vivant et l'animé, au lieu d'être un degré métaphysique des êtres, est une propriété physique de la matière ». Voilà une solution pour laquelle il opte, qui va lui être extrêmement utile, comme vous allez le constater, puisque sur cette base, il peut imaginer l'existence de petites particules constitutives du vivant, les molécules organiques, qui sont microscopiques, vivantes, irréductibles, et on peut résumer très rapidement la manière dont il fait intervenir ces particules dans toute sa conception du vivant et comment il articule ces molécules organiques, ce concept de molécules organiques à tous ces autres concepts. Je suis très rapide. Vous avez schématisé ici un être vivant Vous avez schématisé ici un être vivant constitué par ces fameuses molécules organiques qui sont présentes dans l'environnement. Il les intègre par la nutrition, si c'est un végétaux, c'est par ses racines. Ce sont ces molécules organiques qui vont constituer sa semence, et ces molécules organiques vivantes emportent une empreinte de l'organisation du moule intérieur de chacun de ces êtres vivants, moule intérieur qui est caractéristique donc de l'espèce. Grâce à ce concept de molécules organiques, donc des entités au sein desquelles il a placé la notion de vie elle-même, eh bien, il peut articuler tous ces concepts, le concept de molécule organique, celui d'espèce, celui de moule intérieur, donc d'organisation, et il peut penser la génération, voire les générations spontanées. On voit donc que le fait de poser une réflexion sur la vie, sur les limites de la vie, une définition de la vie, même si elle n'est pas formelle, lui permet ensuite de construire des concepts et de les articuler les uns avec les autres. C'est un exemple donc de centralité d'une réflexion de la vie dans les sciences de la vie, et ce, au XVIIIe siècle. Je passe à un second auteur qui est Jean-Baptiste Lamarck, donc connu pour avoir, en 1802, formulé une théorie expliquant comment les espèces pouvaient s'être transformées au cours du temps. Donc cette théorie, il la formalise en mai 1802 dans le cours qu'il donne, le discours d'ouverture de son cours de zoologie qu'il donne au Muséum national d'histoire naturelle, et il l'a reprise dans un ouvrage intitulé « Recherche sur l'organisation des corps vivants » avec ce titre très long que je ne lirai pas. Il est intéressant de constater que dans la présentation de cette théorie, Lamarck éprouve la nécessité de formuler une définition de la vie, comme vous allez voir. Je vais vous présenter en quelque sorte sa stratégie et la manière dont il introduit cette idée qui est extrêmement nouvelle d'une possibilité d'une transformation des espèces au cours du temps. Il entre dans son discours en annonçant qu'il va décrire la chaîne des êtres en prenant l'ordre en sens inverse de celui de la nature. On comprend dès lors qu'il va suivre la chaîne des êtres du plus complexe au plus simple, ce qui était traditionnel à l'époque quand on décrivait la chaîne des êtres, mais que probablement la nature a suivi l'autre sens. Elle est allée du plus simple vers le plus complexe. Donc il décrit une série d'anéantissements, c'est son mot, à partir des mammouths, des oiseaux et des reptiles et des poissons. On assiste à la disparition de la colonne vertébrale, on obtient les mollusques, les annélides, les crustacés, disparition du cœur, on obtient les arachnides et les insectes, disparition de la fécondation, arrivent les vers, disparition de la vie, on trouve les radiaires, puis enfin les polypes. Ce sont les plus simples, il leur reste le toucher et la présence d'un canal alimentaire. Et parmi ces polypes, il y a un dernier ordre qui est celui des animalcules, qui ne sont, dit-il, que des points animalisés, que des corpuscules gélatineux, transparents, d'une forme très simple et contractile dans tous les sens. Et là, il nous dit, et c'est très nouveau dans la pensée de Lamarck parce que précédemment, il ne les admettait pas, il nous dit que les générations spontanées ont dû intervenir. C'est parmi eux, sans doute, que se trouvent les premières ébauches de l'animalité opérées directement par la nature, en un mot, les générations spontanées. Nous avons donc eu une description de la chaîne des êtres du plus complexe vers le plus simple, et arrivé au plus simple, il nous dit que ces êtres très simples peuvent se former dans la nature. Et donc, fort de cette description, il va poser un certain nombre de concepts qui vont lui permettre d'expliquer comment cette chaîne des êtres a pu se constituer progressivement. Et la première notion dont il a besoin et qu'il prend soin de définir, c'est précisément la vie. Après d'ailleurs avoir repoussé la définition de Bichat qui ne lui paraissait pas suffisante, il affirme « La vie est un ordre et un état de choses dans les parties de tout corps qui la possède, qui permettent ou rendent possible en lui l'exécution du mouvement organique et qui, tant qu'il subsiste, s'oppose efficacement à la mort. » Donc, il nous explique ensuite comment cette cet état de la matière, cet ordre, cet état de choses peut exister. Il s'agit fondamentalement de ce qu'il appelle l'orgasme vital. C'est un état particulier de la matière, dans lequel se trouve la matière. Il existe alors une sorte de tension entre les molécules qui composent la matière, le mot molécule n'a pas la même signification à l'époque, mais entre les constituants de la matière, un certain écartement de ces constituants s'opère. Il est possible, parce que cette matière est dans un état particulier, très proche de l'état liquide, mais présentant une certaine plasticité, un état gélatineux, toutes ces notions, il les décrit et les précise, et cet orgasme vital, cette sorte d'excitation de la matière, cet écartement des molécules qui constituent la matière, est dû à l'action des fluides incontenables, qui sont en fait l'électricité, mais surtout le calorique. C'est la chaleur qui, en quelque sorte, provoque cet état particulier de la matière. À partir de ce moment-là, il considère que le processus est entamé. En fait, c'est la description mécanique du mécanisme des générations spontanées et donc la formation des animalcules qui est rendue possible par ces mécanismes, selon Lamarck, naturellement. Interviennent ensuite les fluides contenables, l'eau essentiellement, les liquides, qui peuvent traverser cette matière qui est donc gélatineuse et qui est dans cet état de l'orgasme vital, et la modeler, y déposer de nouveaux matériaux, se forme rapidement un premier canal, d'abord aveugle à une extrémité, qui est l'intestin primitif des polypes. Dès qu'il a... Alors, c'est l'habitude, hein. Excusez-moi, c'est l'habitude qui engendre par le passage régulier et répété des fluides dans la matière. C'est donc l'habitude qui progressivement sculpte, transforme la matière du vivant. Vous avez à l'échelle donc des animalcules, des polypes, posé les principes fondamentaux de la théorie de Lamarck, c'est-à-dire une action de l'environnement, de l'habitude, l'environnement étant ici représenté par les fluides, et puis cette transformation d'une matière qui est plastique. Par la suite, chez les animaux ou les êtres vivants plus complexes, les fluides sont en fait embarqués et se déplacent dans l'organisme. Ce qui m'intéresse ici par rapport à la problématique de ces journées, c'est le fait que dans une présentation très fondamentale de sa théorie, Lamarck choisit de poser une définition de la vie, et cette définition de la vie est parfaitement articulée et en cohérence avec les concepts qu'il mobilise ensuite pour expliquer comment le vivant peut se transformer, comment les espèces peuvent se transformer. Alors, je voudrais vous parler quelques instants également de Charles Darwin. Alors, j'aurais pu, choisir un passage de l'origine des espèces pour illustrer quelques... évoquer ce biologiste, mais j'ai préféré prendre cet extrait d'une lettre de Darwin à son ami le botaniste Hooker, qui est un extrait qui est très connu des gens qui s'intéressent aux origines de la vie et qu'on mobilise assez souvent. Donc c'est un extrait qui n'a pas été publié du temps de Darwin. En fait, de son vivant, Darwin a pratiquement rien écrit sur le commencement de la vie. Et donc il nous dit, on dit souvent que les conditions nécessaires à l'apparition des premiers organismes vivants, c'est dans une discussion avec Hooker sur les questions de génération spontanée, puisque nous sommes en 1871 et qu'en Angleterre la question est débattue assez activement à ce moment-là. On dit souvent que les conditions nécessaires à l'apparition des premiers organismes vivants sont réunies à présent et qu'elles l'ont toujours été. Mais si, et quel grand si, on peut imaginer que dans quelques mares chaudes contenant toutes sortes de sels ammoniaco et phosphoriques, en présence de chaleur, de lumière et d'électricité, etc., il avait pu se former chimiquement un composé protéique capable de subir des modifications complexes, un tel composé serait de nos jours dévoré ou absorbé, ce qui n'a pu être le cas avant la formation des êtres vivants. Donc c'est une réflexion sur le scénario possible de la formation de la vie sur la Terre, qu'on peut résumer par ce petit schéma qui donc, a bougé un petit peu, qui révèle un aspect très intéressant dans la réflexion de Darwin sur le vivant, c'est la dimension historique du vivant. Je m'explique. Donc nous avons une action de la chaleur et de l'électricité sur un certain nombre de composés, qui sont des composés présents dans cette fameuse mare chaude, dans ce milieu naturel, donc rien d'organique à ce stade. L'action de la chaleur et de l'électricité produisent un composé protéique. Et ce composé protéique pourrait, dans une conception de l'évolution de la matière vers le vivant, donner de fait des organismes microscopiques qui seraient vivants. Ce sur quoi Darwin insiste ici, et c'est extrêmement intéressant, c'est sur le fait que si ce processus a lieu dans la nature, eh bien la présence même des organismes de très petite taille, de ces animalcules, appelons-les comme on veut, qui auraient déjà été formés par ce même processus, empêcherait le processus de se terminer puisque eh bien, ces êtres de petite taille consommeraient les nouveaux composés protéiques formés. En quelque sorte, l'existence même de la vie empêche, selon Darwin, la vie de réapparaître. Et c'est, en fait, sans le formuler, le témoignage d'une réflexion sur le vivant, d'une réflexion sur une conception de la vie qui comporte une dimension historique, c'est-à-dire que la vie est historique, elle est un processus historique et elle ne peut donc recommencer et le processus ne peut se reproduire. Là, nous n'avons pas de définition formelle de la vie. Au demeurant, on voit comment dans une réflexion tout à fait fondamentale sur le commencement du processus évolutif, Darwin est amené à réfléchir sur un des aspects caractéristiques de la vie que d'autres pourraient souhaiter intégrer dans une définition de la vie comme un des critères caractérisant la vie. Alors, je fais un très courte mention à Claude Bernard, puisque Anne Fagot-Largeau en a magnifiquement parlé tout à l'heure. De fait, on ne peut pas ne pas avoir l'attention attirée par ces leçons qui sont tout à fait fascinantes et très intéressantes. Et on y trouve, dans le contexte que Anne Fagot-Largeau a indiqué, des propositions de définition dont Bernard se défie lui-même. Ici, donc, je considère qu'il y a nécessairement dans l'être vivant deux ordres de phénomènes, les phénomènes de création vitale ou de synthèse organisatrice, les phénomènes de mort ou de destruction organique. Je voudrais juste mentionner ici, puisque mon propos est d'essayer de resituer ces réflexions-là dans le cadre extrêmement, finalement, pratique du travail de ces biologistes et de leurs réflexions, indiquer qu'au cours des leçons, on voit Bernard se concentrer sur l'échelle de la cellule, voire même d'aller au-delà, il se concentre sur le protoplasme et il essaie d'expliquer, de montrer comment précisément cette intrication dont vous avez parlé se joue, se situe à l'échelle chimique au sein même du protoplasme qui est le niveau de la matière du vivant où il veut observer, il veut que l'on observe cette création vitale et cette destruction qui sont finalement simultané et intriqué. Alors, Je fais un bond scandaleux, évidemment, dans le, dans le temps. Et j'évoque très rapidement l'ouvrage de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Pourquoi prendre cet exemple particulièrement ? Parce que nous sommes donc dans les années 60-70, et c'est le moment où les grands principes de la biologie moléculaire ont été posés. Vous savez très bien que Monod a été un des grands acteurs de cette transformation de la biologie, et il a éprouvé le besoin de traiter du vivant. Et c'est donc ce qu'il fait dans cet essai qu'il a intitulé lui-même « Essai sur la philosophie naturelle de la biologie moderne, le hasard et la nécessité », qui, s'il ne contient pas, ou on peut repérer peut-être des définitions formelles du vivant dans cet ouvrage, est plutôt une sorte de définition du vivant à lui seul, ce volume. J'attire votre attention sur le chapitre 1, qui s'intitule « D'étranges objets ». C'est évidemment les objets vivants dont il est question et sur lesquels Monod se questionne dès le début de cet ouvrage. Et il discute, on le voit bien, pratiquement, c'est totalement récurrent dans les réflexions sur le vivant, des critères qui permettent de distinguer l'animé du non-animé, le vivant du non-vivant. Cette discussion sur les critères l'amène à développer cette notion de téléonomie qu'il appelle aussi le projet, je le mets bien entre guillemets, ce qui a été abondamment discuté à l'époque. Donc comme critère, la téléonomie, le déterminisme interne et autonome des êtres vivants et leur invariance reproductive. Et il développe aussi, évidemment, la question de l'originalité des êtres vivants par rapport au second principe de la thermodynamique. C'est ce qui m'intéresse avec cet exemple, et je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail, vous savez que c'est sujet à discussion et c'est tout à fait intéressant et stimulant, mais c'est le moment. C'est le moment des années 60, du début des années 70, où la biologie moléculaire est là, de nouvelles représentations du vivant sont disponibles. Et si des débats peuvent avoir lieu sur la définition de la vie, à proprement parler, des débats spécifiques sur la définition de la vie, c'est dans ce contexte-là, désormais, qu'ils auront lieu. Et des débats, de fait, ces dernières décennies, ont eu lieu. On observe, ça a été dit tout à l'heure, une grande diversité de propositions de définition de la vie dans ces débats, notamment sur les critères du vivant, et on discute à l'infini de des critères qu'il faut retenir pour définir le vivant. La définition de Gerald Joyce a été mentionnée tout à l'heure, elle a été utilisée par la NASA qui, se donnant la mission de la recherche de vie dans l'univers, doit bien poser une définition pour savoir ce qu'elle cherche, ça semble normal. La vie est un système chimique auto-entretenu capable de subir une évolution darwinienne. Mais je sais que dans la salle, il y a des gens qui trouveront inutile le fait de mobiliser l'évolution darwinienne comme critère. Les débats peuvent être... Le débat peut avoir lieu, a lieu, mais on n'entrera pas dedans. Vous trouverez facilement nombre d'ouvrages qui rendent compte de l'activité de cette réflexion sur la définition de la vie et de la diversité des définitions. Ce qui est certain, c'est que ces débats mobilisent des dimensions à la fois théoriques et philosophiques et que les définitions peuvent être des buts en soi. On a dit tout à l'heure qu'il était effectivement très difficile, voire impossible, de définir la vie. Pourtant, c'est la tâche que certains se donnent, au moins à l'occasion de certains colloques ou dans certains contextes. Mais le contexte de cette réflexion, c'est celui désormais de la biologie contemporaine, de la biologie moléculaire et de l'évolution. Alors, petite pirouette avant de terminer. Oui, mais les biologistes savent travailler sans définition du mot vie. C'est quelque chose qui a été déjà dit ce matin, que Evelyn Fox Keller avait écrit tout à fait clairement. Et de fait, on peut se passer de la définition du mot vie. Cependant, on a vu quelques auteurs qui, bien que repoussant cette tâche de définir la vie, la définissaient quand même et en avaient besoin dans le développement de leur corpus théorique. Alors, peut-on se passer d'une définition de la vie ou non ? Je pense que ce qui est certain, c'est que se poser la question « qu'est-ce que la vie ?», si ce n'est pas une question première pour les biologistes, c'est une question qui peut être posée et se donner la tâche de tenter d'y répondre s'avère, je pense, heuristique pour de nombreux domaines de la biologie, et il me semble que c'est ce que ces deux journées comptent se donner comme ambition. Je vous remercie.
Bien, donc nous avons quelques minutes pour des questions, une discussion.
Oui, bonjour. Moi, puisque on est au stade des définitions, j'aimerais savoir si dans votre esprit, ou peut-être dans l'esprit d'autres personnes, parler de la vie ou parler du vivant, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai un petit peu l'impression que même si vous paraissez employer les deux termes de façon à peu près équivalente, j'ai l'impression qu'il y a quand même il y a peut-être des différences, même si on ne peut pas les définir. Par exemple, que la vie, c'est un état, c'est une question universelle. La vie existe-t-elle dans l'univers ? Alors que le vivant, c'est une sorte de constatation. Vivant versus non-vivant, c'est très parlant. Et vie versus mort, c'est pas du tout la même chose. Donc, est-ce que vous pouvez commenter un petit peu sur cette distinction ? Est-ce que c'est une idée que je me fais ou bien est-ce qu'il y aurait matière à faire une distinction ? Distinction qui serait peut-être plus difficile à faire, par exemple, en anglais, où on prend souvent le terme « life » de façon générique, alors que le français, peut-être, introduirait une distinction entre les deux et, pour une fois, serait peut-être plus précis que l'anglais.
Je pense que le vivant, c'est l'individu. On vise quand on dit le vivant, on pense à l'individu vivant. Tandis que quand on dit la vie, on pense à l'ensemble des vivants, ou au moins l'espèce. Mais les définitions sont souvent un mélange des deux. Ouais.
Oui, je pense que ça peut être intéressant de faire le distinguo, même si c'est très difficile, c'est-à-dire que ça nous amène à devoir construire deux définitions au lieu d'une. Mais tu as raison, je pense que c'est intéressant de se poser cet objectif, mais encore une fois, c'est assez difficile. Et je vois que dans ce que tu as proposé comme distinguo, c'est pas tout à fait la même chose que ce que Mme Fagolargeau a proposé, elle. Donc, il y aurait débat.
Non, mais on dit le vivant meurt, la vie dure. Elle va plus loin que le vivant. D'un autre côté, il est souvent parlé du vivant en général. Et à ce moment-là, on rejoint la vie en général.
Je crois que c'est moi. Oui, moi c'est un commentaire, j'ai trouvé intéressant la contradiction justement entre le fait que l'on définisse la vie par rapport à la mort, en tout cas que les deux soient vraiment imbriqués, et le fait que la vie en tant que processus historique est quasiment immortelle, parce qu'on peut dire que la vie sur Terre durera tant que la planète durera, tant qu'elle ne sera pas éventuellement brûlée par l'augmentation de la taille du Soleil. Donc là il y a quelque chose d'assez fascinant. Bon, c'est juste un commentaire, donc je ne sais pas ce que ça vous suggère.
Mais au XIXe siècle, on pensait que la vie sur la Terre était éternelle. Mais actuellement, on ne peut pas penser ça. Actuellement, on pense que la Terre a son histoire et ça finira, la Terre, donc la vie avec, à moins qu'on arrive à émigrer.
Oui, mais le fait que la vie durera autant que la Terre existera sous une forme qui est compatible avec la vie, c'est déjà assez fascinant en soi. C'est une sorte d'immortalité. Enfin, disons, bien sûr, ce n'est pas l'immortalité, mais c'est quand même intéressant.
Mais l'idée que la planète elle-même peut mourir, c'est un transport des concepts qu'on avait sur la vie à l'ensemble de la nature. Et on en est là, je crois. L'univers lui-même est une espèce de grand vivant dans nos représentations.
Un processus de pensée qui a l'air assez général ici. Dans les réflexions qu'on nous propose, c'est qu'une fois qu'on se trouve devant la difficulté à trouver une définition de la vie, une fois qu'on s'est dit que peut-être ça valait pas le coup parce que c'est vraiment trop imprécis comme relation, on s'intéresse à une liste de critères qui caractérisent les systèmes qu'on a envie de nommer comme vivants et à ce qu'ils ont en commun et à ce qu'on attend d'eux. Est-ce qu'il a jamais été commencé le travail de formaliser cette liste de critères et de la construire formellement de façon collaborative? Ou est-ce qu'on en parle toujours sans jamais l'écrire explicitement?
Qu'est-ce que vous entendez par formalisation?
C'est-à-dire que, de la même façon que des gens proposent des définitions de vivant dans leurs ouvrages, est-ce qu'il a été proposé une liste de critères sur laquelle on peut travailler de façon consensuelle? Parmi lesquels l'adaptation à l'échelle de l'individu, de la population, ou le renouvellement, etc.
Précisément, il y a le débat sur la définition de la vie qui émerge dès lors qu'on met ensemble des personnes qui réfléchissent à la question, montre qu'on a beaucoup de mal à trouver un consensus absolu. Et il y a une diversité de définitions parce que justement, tous les critères ne se recoupent pas et ne se superposent pas parfaitement, voire les définitions des différents critères ne se recouvrent pas. Donc c'est extrêmement difficile, mais je pense que ça n'est pas grave que ça n'aboutisse pas, ça n'est pas un problème que ça n'aboutisse pas, parce que le fait même de se poser la question et de prendre le temps parfois de réfléchir ensemble à cette question, de confronter les opinions, est heuristique et est une réflexion qui est utile à l'ensemble de la biologie et à la philosophie simultanément.
Ce qui me frappe, moi, c'est que dans les essais de définition, il y a toujours deux termes. Hasard, nécessité, vie, mort, création, destruction, forme, matière. C'est toujours des définitions à deux termes complémentaires et opposés. Monsieur.
Merci de vous présenter quand vous intervenez.
Alors, Jean-Paul Laumont, je suis roboticien, donc très un petit peu éloigné de. Mais je voudrais revenir à la première question qui a été posée, qui me semble, dans ma réflexion d'ingénieur, je pourrais dire, absolument fondamentale. Le distinguo entre vie et vivant. Je pense que la vie a pour substrat le vivant. Mais on peut parfaitement parler de non-vivant. De non-vivant, un galet, un caillou, ce n'est pas vivant, ça ne pose pas de problème. Et donc, travailler sur la définition du vivant permet d'avancer, parce que le non-vivant, ce n'est pas la mort. Hein, c'est pas, on ne peut pas parler de non-vie. Donc là, il y a vraiment deux échelles qui sont complètement différentes. Et je pense qu'il y a effectivement dans cette question-là, qu'est-ce que la vie, un angle d'attaque qui peut être l'angle d'attaque du vivant, qui est beaucoup moins, une ambition beaucoup moindre peut-être, hein, mais qui peut permettre d'avancer sur cette question qui est vertigineuse, quoi.
Ne pourrait-on pas envisager le problème de l'auto-organisation de la matière loin de l'équilibre dans le cadre des phénomènes, par exemple la réaction de Bézed, et la mettre au moment où vous parliez de Darwin, le bouillon primordial, est-ce que ce n'est pas quelque chose comme ça, même si après Pasteur pourrait penser que non, les auto-organisations n'avaient pas abouti à un phénomène du vivant. En un mot, à quel endroit vous mettez la réaction de BZ?
Il y a peut-être des gens dans la salle qui ont envie de répondre à cette question plus précisément que moi. Non, je ne sais pas. Ce que j'essayais de montrer, c'est comment une pensée dans un contexte, à un moment donné, dans un contexte précis, à un moment donné, peut nécessiter une réflexion sur la vie. Je ne vais dire que la vie. Comment cette réflexion est intégrée dans un corpus théorique et dans cette dans la proposition générale du scientifique en question. Et je méfie un petit peu des analogies entre des périodes qui ne sont pas les mêmes, qui ne correspondent pas au même contexte, tout simplement parce que quand on fait ça, on risque de plaquer la complexité d'une époque et d'un contexte sur une autre époque et un autre contexte, et finalement de perdre de vue le fond historique d'une théorie donnée. Voilà.
Marc-André Solos du Muséum, je me posais la question un petit peu orthogonale peut-être de savoir si d'autres groupes ethniques que le nôtre s'étaient posé la question dans des formes éventuellement voisines ou identiques, ça je ne sais pas, et quelle réponse ils avaient amené. La question, qu'est-ce que la vie ?
J'ai pas compris la question.
Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui sont
posées ? Oui, d'autres sociétés ou d'autres courants de pensée, par exemple asiatiques, je ne sais pas.
Oui, je ne pourrais pas répondre précisément à cette question sans être horriblement approximatif. Donc, je préfère ne pas botter en touche. Ça ne vous ennuie pas. Mais bon, c'est une question anthropologique.
La dernière question. Allez-y.
Jean Siermès, je reprends la question qui a été posée sur les structures dissipatives à travers les réactions de Belousov-Sabotinsky. La vie, on ne sait pas la définir aujourd'hui, en tout cas on n'est pas d'accord. Est-ce qu'on sait définir les structures dissipatives de façon unique, ce qui peut être un mode d'abord? Et sommes-nous, dans ce cadre-là, une forme de structure dissipative qui a des propriétés particulières?
Je pense que c'est une question qui, effectivement, pose la question de la définition. Vous posez, d'une autre façon, la question de la définition de la vie. C'est-à-dire, où la place-t-on dans un ensemble d'objets qui présenterait un critère, une caractéristique donnée dont on considérerait qu'elle est la caractéristique principale. Et ça, c'est typiquement le genre de question qu'on peut mettre en débat dans les discussions sur la définition de la vie. Et de fait, je me garderais mieux, moi, personnellement, d'apporter la moindre réponse à cette question. C'est aux spécialistes de la définition de ces objets de se préoccuper en même temps de la définition de la vie et de nous documenter, nous informer là-dessus.
Je dirais que ce qui nous gêne, c'est que nous n'avons de la vie qu'un seul modèle. La vie sur la Terre a une certaine unité, et c'est un modèle. Et nous commençons à réaliser qu'il y a peut-être d'autres modèles de vie. Ce qui rend difficile le fait de caractériser la vie, puisque c'est la nôtre, mais il y en a peut-être d'autres.
Je pense qu'on va s'arrêter sur cette phrase qui est assez profonde. Et puis on va passer donc à la deuxième partie donc de cette session qui est consacrée à la physique et à la chimie de la vie avec...